Nous voici donc arrivés à notre troisième message sur la joie. Ce qui semble démontrer que celle-ci est non seulement une discipline spirituelle, quelque chose qu'il faut travailler et entretenir en vue de vivre une vie plus intime avec Dieu, avec les autres, mais également l'une des plus importantes disciplines que nous pouvons vivre en vue d'apporter du changement dans nos vies et dans celles des autres. La joie, ça change la vie en fait. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui auraient raté un épisode, ce qu'est une discipline spirituelle, rappelez-vous. C'est une activité quelconque que je peux pratiquer en faisant un effort maintenant, en vue de m'aider à faire quelque chose que je ne peux pas faire en faisant un effort maintenant. Si j'ai pris, vous la reconnaîtrez sans doute, notre champion olympique d'heptathlon, Nafisa Tutiyam, ben, je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'elle a commencé à s'entraîner à la hauteur, elle ne franchissait pas 2 mètres. Ça ne surprendra personne. Elle en était même très loin. Elle aurait pu essayer encore de passer une barre à 2 mètres, elle n'y serait jamais arrivée et ce serait tout simplement découragé. Par contre, petit à petit, elle a continué à s'entraîner, à ne pas douter, à ne pas rechercher la performance pour la performance. Et un jour, alors que beaucoup d'observateurs en doutaient, elle a fini par passer une barre à 2,01 mètres. C'était il y a 2 ans, je pense. Donc elle a fait des efforts répétés quotidiens en vue de parvenir à quelque chose plus tard. Mais l'important est de comprendre que l'effort ne consistait pas à passer une barre à 2 mètres, mais bien acquérir les capacités qui un jour lui permettraient de le faire et de rester d'ores et déjà à ces hauteurs-là. Depuis lors, elle passe en moyenne des barres à 1,95, 1,96. Et donc ça s'installe progressivement. Ça devient, je ne vais pas dire automatique, ça demande encore et encore l'entraînement, mais ça commence à se stabiliser à une certaine hauteur. Alors j'aimerais encore repartir avec, à partir de quelque chose que j'ai dit la semaine dernière, rappelez-vous. La joie semble ne reposer que sur ceux ayant consacré leur vie à quelque chose de plus grand que leur propre bonheur. Donc notre problème fondamental à tous, même si on n'en prend pas conscience, même des chrétiens, c'est que l'on recherche encore et toujours notre bonheur selon notre conception des choses. Alors ce quelque chose de plus grand auquel je fais allusion, c'est bien entendu, mais vous en doutiez un petit peu sans doute, ben c'est Dieu et son évangile. Donc pratiquement, ça va consister à aimer les autres, à être en contact avec eux, à être là pour eux. C'est une exigence de l'évangile envers ceux qui font partie de la famille de Dieu, donc l'Église, mais aussi envers ceux qui n'en font pas partie. On fait souvent le distinguo, on ne devrait pas le faire. Nous devons être présents là pour les autres. Et dans toute cette relation, nous serons en contact avec des gens qui vont booster notre joie, qui vont la renforcer. Il y a des personnes qui sont douées pour la joie. Des hommes et des femmes qui ont toujours le regard plus juste et plus clair, qui ne critiquent jamais personne, qui amènent de la lumière, même dans les situations les plus sombres ou les plus obscures, parce que la joie du Christ et de son royaume ne les quitte jamais. Des gens comme ça, ça existe. Je ne dis pas qu'ils sont nombreux, mais ils existent. Alors si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, c'est génial, hein, il faudra prendre avec elles des rendez-vous réguliers, car elles peuvent devenir pour vous des mentors de joie, des guides qui vont vous aider à développer votre joie. Parce qu'en les voyant vivre, agir et réagir, vous allez apprendre à voir le royaume de Dieu en construction et surtout à discerner le roi, donc Jésus, qui y règne. Car ces personnes sont et demeurent tout le temps dans la joie de leur Seigneur. Bon, Daniel Bourguet, pour ceux qui le connaissent, est ce genre de personne. Il n'y a rien qui bouge en lui. C'est une petite rivière constante. Et quelles que soient les catastrophes qu'on lui annonce, c'est-à-dire qu'il passe sa vie, un peu comme moi, à entendre des mauvaises nouvelles toute la journée, ça ne bouge en rien sa capacité à se réjouir de la présence de Dieu. Dans sa vie à lui, et aussi dans celle des autres, et même dans celle des gens qui souffrent et qui ne comprennent plus que la joie est à portée de main puisque Jésus est encore et toujours là. Alors, par contre, si vous n'avez pas la chance d'avoir ce genre de personnes dans votre entourage ou que vous êtes vous-même trop loin de la joie pour la discerner chez les autres, rassurez-vous, il y a quelque chose de plus fondamental encore à comprendre concernant la joie et ça, c'est la première bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est ce que Paul écrit aux Galates, aux églises de Galatie, c'est le sud de la Turquie actuelle. Mais le fruit de l'Esprit, donc de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. La joie est donc un fruit que produit l'Esprit Saint. Donc on n'est pas tout seul à devoir produire la joie. Dieu est en nous pour la produire avec nous. Donc il a un rôle, Dieu, à jouer dans le développement de la joie. C'est magnifique comme nouvelle parce qu'on sent tout à coup moins seul. Si je devais être tout seul pour produire la joie, je me dirais « oui, oui, oui ». Vu la maman que j'ai pas été équipé tout petit pour ça. Ma mère n'est pas spécialement une détentrice de la joie. Donc en effet, si la joie est une discipline, je vais forcément avoir mon rôle à jouer. Donc pour le dire autrement, Dieu va pas tout faire. Il peut pas produire la joie contre notre volonté. Il va falloir qu'on cède nous-mêmes aussi quelque part. Nous avons donc notre partition à jouer également. Pratiquement, ça veut dire que nous devons apprendre à être au clair sur ce que nous plantons comme semence en nous. Il faudrait en être conscient. Si nous voulons avoir des poires comme fruit de notre travail, c'est un exemple que je prends pour rester dans l'ensemencement, si nous voulons avoir des poires comme résultat de notre discipline spirituelle, il faudra planter une semence de poirier. Ça paraît évident, hein, d'accord ? Si nous voulons que la joie grandisse en nous, il faudra labourer notre vie afin d'y planter des semences de joie. Si vous plantez autre chose que la joie, ben vous aurez un résultat. Mais en rapport à ce que vous plantez. D'accord ? Je vais quand même aller un peu plus loin pour peut-être éclaircir la dimension. Lorsque nous faisons face à une circonstance particulière, nous devons décider de favoriser la joie au détriment de tout autre ressenti. Il y a des ressentis préprogrammés, j'ai envie de dire, par l'éducation ou autre chose, qui vont objectivement, face à une situation donnée, X, faire remonter un certain nombre de ressentis en nous. Ça peut être la colère, l'amertume, plein de trucs négatifs. Pas seulement parfois, mais souvent des trucs négatifs. Ça va venir tout de suite. Donc, notre partie de travail, c'est pour ça que c'est une discipline spirituelle, ça va être d'installer, de décider, de conserver ou de travailler, d'ensemencer dans la joie pour que des ressentis négatifs ne commencent pas à nous submerger. Bien sûr, au début, ça va être compliqué, hein. C'est un travail. Rappelez-vous, on a fait sa petite Tuyam, hein. Au début, elle passait des bains à 1,40, hein. Au début, elle s'est pas dit, oh mon Dieu, je passerai jamais 2 mètres, c'était pas le problème. Il faut que tu t'entraînes pour progressivement que ça s'installe dans ta vie. Donc, pratiquement, il faut focaliser sur la bonté de Dieu qui est disponible uniquement maintenant. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine passée, hein. Donc, sur ce qui est beau, est grand, est vrai et qui demeure toujours indépendamment des circonstances. Notre problème fondamental, c'est qu'on fonctionne toujours par rapport aux circonstances, et c'est pour ça qu'on est malheureux, quoi. La circonstance est bonne, on est plus ou moins heureux. Ça dépend, on peut encore être malheureux alors que les circonstances sont sympas, hein. Il y a des gens qui tirent la gueule même quand tout le monde se marre, hein. Ça existe, hein. Si vous voulez des exemples, je peux vous en présenter. Donc, et c'est important de le comprendre, la joie dépend aussi de nous et pas des circonstances. C'est ce que Jésus, rappelez-vous, appelle « demeurer dans son amour ». Et il dit ça quand ? Juste après la parabole de la vigne et des branches. Vous demeurez, il n'y aura pas de problème. Vous ne demeurez pas, donc vous ne décidez pas de vous entraîner à cultiver les fruits que je mets à votre disposition, ben vous serez tout ce que vous voulez, mais vous serez malheureux, quoi. Il faut le dire comme ça. C'est le seul sol stable, solide et nourrissant qui permettra à notre joie de grandir et de demeurer indépendamment des difficultés diverses que nous pouvons rencontrer et nous en rencontrerons bien entendu. Il faut donc être attentif à sa vie intérieure. On est attentif à plein de trucs extérieurs à nous, de notre vie extérieure, mais rarement attentif à notre intériorité. Il faut donc faire attention à l'état de son âme et décider quel genre de traitement nous voulons donner à la situation qui se présente à nous. Si nous optons pour la joie, nous devrons le faire intentionnellement. Et pas seulement appeler la joie de nos voeux comme par magie. « Oh Seigneur, donne-moi ta joie !» Ça ne va pas marcher, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça ne marche pas. En Belgique, il pleut quasi tout le temps, mais imaginez un jour, vous levez, il ne pleut pas. « Oh, fait qu'il pleut sur ma tête !» Il ne pleuvra pas. Hein. Oh, si, si, vraiment. En d'autres termes, il faudra se battre un peu beaucoup contre nous-mêmes. Hein, ça, c'est le deal, hein, quand même. Voilà ce que Pierre, pour que vous rassuriez que c'est pas moi qui pense, hein. Il y a de plus grands bonhommes que moi qui pensent ça aussi. Voilà ce qu'il écrit. Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. On fait que passer les choux, hein, je vous rappelais quand même, hein, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, hein, la nature sans Dieu, qui est toujours là, qui font la, il dit quoi? Qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à votre âme. Et c'est intéressant, c'est fort ce qu'il dit Pierre. Il parle de guerre contre nous-mêmes. Il y a un truc en nous qui nous fait la guerre, qui fait la guerre à notre âme. Alors je sais bien que dans certains milieux, la guerre ou le combat spirituel est dirigé contre des entités angéliques, diaboliques, donc extérieures à nous. Mais dans les faits, nous dit Pierre, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Moi, j'aimerais tellement que ce soit toujours le diable qui soit responsable de tout, mais quand je suis en dessous de tout, souvent, c'est pas mon, son problème à lui, c'est mon problème à moi. Donc, c'est encore toujours cette notion de péché, donc cette capacité ou ce désir qui est en nous, dans notre ancienne nature, et qui nous pousse à toujours faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, à réagir comme Dieu ne veut pas qu'on réagisse. J'ai envie parfois d'obéir à Dieu, mais je ne parviens pas à le faire. Rappelez-vous Romains 7, ce que Paul écrit dans sa lettre aux Romains. Donc c'est toutes ces choses qui sont l'ennemi de Dieu, qui font la guerre à notre âme, et qui nous empêchent par exemple de connaître, de vivre le fruit de la joie. Donc toutes ces choses à l'œuvre en nous distorsionnent notre perception des choses, nous empêchent de faire les choses comme elles sont réellement, elles perturbent nos contacts humains, ça fait qu'au niveau communication avec les autres êtres humains qui nous entourent, nous allons souvent être pas très en phase et même parfois en dessous de tout, pas disponible, pas gentil, pas serviable. Ces choses vont enflammer nos désirs pour des choses que Dieu ne veut pas et asservissent en fait, pour faire simple, notre volonté, rendre notre volonté esclave. Et ça vient sans doute en grande partie de la mauvaise compréhension que nous avons encore de certaines dimensions. Parce qu'on n'enseigne plus ces choses ou parce qu'on ne les enseigne pas, enfin peu importe. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas encore très au clair quant à l'objectif prioritaire de Dieu pour nos vies. Et c'est à ça que Jésus fait référence lorsqu'il dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ou « Que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Alors on lit ce texte souvent en rapport avec le salut des gens. Que Jésus dit « Mais tu dois devenir un de mes disciples, tu dois laisser Dieu entrer dans ta vie, donc te convertir, et alors tu auras une vie super après ta mort. » D'accord? C'est comme ça qu'on lit souvent ce texte, non? Il me semble. En tout cas, chaque fois que je l'ai entendu enseigner, c'était quand même dans ce sens-là. Eh bien, je pense que ce n'est pas juste. Enfin, je pense. Nous sommes quelques-uns à penser que ce n'est pas juste. Le contexte n'est pas celui-là, en fait. Ce n'est pas celui-là parce que ce dont parle Jésus, c'est ce que je viens de dire, il y a des choses en nous qui détruisent notre âme. Là, c'est probablement le gars qui, d'ailleurs après, il va continuer à dire, imagine que tu as gagné le monde entier, que tu as stocké des vivres dans tes greniers, que tu te dis, oh c'est merveilleux, j'ai tout l'argent que je veux. Il dit, malheureux que tu es, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et toutes ces richesses accumulées ne vont pas t'aider, d'accord? Jésus donc, il fait référence à toutes ces choses en nous qui nous détruisent l'âme, qui nous font perdre notre âme, en fait. Donc il ne faut pas être de l'autre côté du miroir pour perdre son âme. On peut déjà la perdre ici. Ça commence ici et maintenant. Donc Jésus ne nous menace pas de quelque chose de cosmique après notre mort. C'est un diagnostic clinique qu'il fait. Votre âme est malade. Donc la question importante qu'il pose, c'est pas « je pourrais finir là, destination éternelle », mais bien « je pourrais devenir ça, quelqu'un qui a des aspirations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu désire. Quelqu'un dont l'âme est perdue, c'est-à-dire non unifiée en Christ, mangée et détruite par le doute, l'anxiété, l'amertume, la colère, la jalousie, et que sais-je encore. C'est ça qui détruit l'âme. On peut donc être chrétien et perdre son âme parce qu'on gâche sa vie. L'évangile, mes amis, n'a jamais consisté à être malheureux ici, sous prétexte que l'on sera heureux après. C'est une conception qui est totalement étrangère à l'évangile. Moi, j'ai jamais parlé de ma foi, partagé ma foi à qui que ce soit en disant, tu sais, si tu viens à Jésus, tu seras super content après. Moi, si je continue à partager ma foi, c'est parce que c'est le pied d'avoir Jésus dans sa vie, maintenant. Moi, j'en ai rien, vous connaissez mon caractère, que j'en ai rien à foutre d'être heureux dans je sais pas moi. S'il est méchant avec moi dans 50 ans, 60, parce qu'on vit plus vieux, plus longtemps, il paraît. Donc on peut être chrétien et détruire son âme. Jésus nous dit en fait que ce que nous emporterons auprès de lui lorsque nous quitterons cette terre, c'est ce que nous serons devenus grâce à lui ou sans lui. Comprenez? Donc il est, par rapport à tout ça, et c'est là que je vais vous demander un effort d'attention particulier, je sais que vous pouvez le faire, il est peut-être temps de faire un peu d'anthropologie biblique. Pour faire simple, ça fonctionne comment un homme d'après Dieu? Ça, c'est en résumé la structure interne de l'homme comme la Bible le voit. Au centre, on va détailler un peu, au centre, vous avez la volonté. C'est embêtant, mais ce n'est pas pour rien qu'elle est au centre. C'est quoi la volonté? Ça, c'est pas très compliqué. C'est notre capacité à vouloir. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des années à comprendre que quand Jésus se retrouvait parfois devant des personnes comme quelqu'un, à la piscine de Siloé, si vous vous rappelez ce passage dans l'évangile de Jean, où le texte dit qu'il est là devant un homme qui est né handicapé, donc qui n'a jamais marché de sa vie. Et il a 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il rampe par terre. Et Jésus vient devant cet homme, regarde cet homme et lui dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et moi, au début, ça me faisait hurler. J'ai dit, mais il est con, lui, ou quoi? C'est pas clair, qu'est-ce qu'il veut, s'il attend? Non, c'est pas clair. Cet homme ne sait plus vouloir. Sa volonté est détruite, annihilée, par son état. Lui, c'était son handicap, nous, c'est d'autres choses. Donc, la volonté, c'est notre capacité à vouloir. C'est elle qui doit être soumise à Dieu, à l'Esprit de Dieu. J'y viendrai. Mais dans les faits, on va être objectif, elle est extraordinairement limitée. Elle est très limitée, notre volonté. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Donc tous ceux, et j'en entends beaucoup, et surtout dans les églises, qui disent « il n'y a qu'à, il faut qu'on bouge ton pet », ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et dans certains cas, ça ne fonctionne vraiment pas. Même dans ma vie, je suis un gars plutôt rentre-dedans. Moi, parfois, ça dure 3 minutes, dans les meilleurs jours. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Tellement si vous me dites que vous avez une volonté terrible et que vous êtes, et que vous y arrivez, tant mieux, Écrivez un livre, ça nous aidera. Ensuite, il y a l'esprit ou le cœur. C'est équivalent dans la Bible, L'esprit, avec un petit e, ou le cœur. C'est le siège, je rappelle, C'est le siège des pensées, des sentiments et des émotions. Dans l'Ancien Testament, par exemple, quand vous lisez le terme cœur, ça fait référence à ça, c'est pas l'organe, Dans la pensée juive, c'est le cœur, c'est pas le palpitant, pas ça. Donc quand dans l'Ancien Testament on dit ton cœur est malade, ça ne veut pas dire que vous avez un problème cardiaque. D'accord? Non, mais je précise. Donc c'est le siège des pensées, des sentiments et des émotions. Donc j'ai mis esprit, mais j'aurais pu mettre cœur, ok? Puis il y a le corps. Alors le corps, c'est le siège des appétits, tout type d'appétits. Et des comportements, vous ne pouvez vous comporter d'une certaine manière qu'à travers ce que exprime votre corps. Nous sommes d'accord? Entre faire un bisou et foutre une claque, il y a une différence. Et enfin, last but not least, comme disent les Anglais, l'homme. Là, vous, j'ai pris des graves. L'homme. J'en profite, pour une fois. L'âme qui est ce qui inter et connecte, ce qui lie la volonté, l'esprit, et le corps. Tous ces éléments sont donc en rapport direct les uns avec les autres et interdépendants. D'accord? Okay. Donc pour ceux qui étaient là à un certain moment, il y a quelques semaines, quand on parlait un peu de l'âme dans la conversation, quand j'ai dit qu'il fallait se méfier de certaines conceptions de l'âme qui a pénétré l'Église dans les premiers siècles sous l'influence de la pensée grecque, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est que dans la pensée juive, l'âme c'est l'entièreté des choses. C'est la connexion totale et globale de l'esprit, de la volonté et du corps. C'est l'entièreté de la personne. C'est pour ça que dans la Genèse déjà, quand Dieu crée et qu'il souffle, le souffle de vie, la neshama en hébreu, pour faire, et le texte dit, et Dieu souffla dans les narines, c'est très poétique, et Dieu souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme afin que l'homme quoi? Afin que l'homme devienne une âme vivante. Tout ça. Alors à l'époque, c'était le pied. Parce que tout était connecté parfaitement et la volonté de l'homme était soumise à qui? À Dieu. Et c'était le pied. Seulement, il y a UEF, franchement, soit. On ne va pas en faire des tonnes là-dessus. Voilà. Donc, le projet de Dieu est que tous nos choix, c'est le projet initial, hein, avant qu'on fasse les andouilles. Mais c'est l'advenu quand Christ est présent dans nos vies. Hein. Le projet de Dieu est donc que tous nos choix, nos pensées, nos désirs et nos comportements soient en parfaite harmonie les uns avec les autres et soient énergisés par une relation constante et une soumission constante à Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc que toutes ces parties ne fassent qu'un, unifiées sous l'autorité de Dieu. Ça, c'est le plan. C'est ce que Jésus appelle, c'est important de le dire, être parfait. Souvenez-vous, dans le discours sur la montagne, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ça traduit le mot grec téléos. La traduction vaut ce qu'est vous, même si je comprends qu'on ait traduit ça par parfait, mais on serait plus proche de justement d'unifier. Comprenez? Sur la même longueur d'onde. Autrement dit, Dieu nous appelle à être non divisés, comme Dieu l'est au sein de la Trinité. Ça fonctionne parfaitement. Parce que n'oublions pas que nous sommes faits à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il nous a créés en partant du seul modèle qui existait à l'époque, à savoir lui-même. D'accord? Être divisé intérieurement, c'est également le danger contre lequel Jacques nous met en garde dans sa lettre, lorsqu'il dit que nous sommes des hommes partagés, ou des femmes partagées. Mais le grec dit littéralement « diskoukos », c'est-à-dire « vous êtes des âmes doubles, fracturées ». Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, il faut que je prenne un exemple de la vie de tous les jours, parce qu'autrement, tout le monde ne va pas toucher. OK? Bon. Alors, cet exemple, il vaut ce qu'il vaut, hein. Ce n'est qu'un exemple. Et que personne ne se sente visé, surtout. C'était pas le but. On va prendre un exemple pour expliquer comment ça fonctionne au quotidien, à l'intérieur de nous. Ça fonctionne tout le temps, hein. Alors, comment ça fonctionne pratiquement? Et c'est, ce fonctionnement structurel est à l'œuvre en permanence, 24 heures sur 24, sauf quand vous dormez. Et encore. Pour cet entre nous, c'est pas prouvé. Parce qu'on peut faire des rêves abominables qui ne sont pas à la gloire de Dieu aussi. Ça arrive. Hein. Freud n'avait pas tort surtout. Je suis à table avec un ami qui aurait besoin de perdre quelques kilos. Ok. On en arrive au dessert et je me dis, moi, intérieurement, à sa place, je n'en prendrai pas, c'est pas bon pour lui, il a déjà ce qu'il faut. Quoi. Mais il en prend un. Il décide de prendre un dessert. Le dessert arrive et ce dessert est énorme. Mais énorme. Mais il est disposé dans une grande assiette, ce qui fait paraître le dessert tout petit. Et mon ami me regarde et dit, grande assiette, petit dessert. Il justifie le fait qu'il va baffrer un gros dessert en disant que l'assiette est grande, donc le dessert est forcément petit. Vous me suivez? Mais d'où vient cette phrase? Grande assiette, petit dessert, d'où est-ce qu'elle sort cette phrase? Ben, je vais vous expliquer. Quel est le processus à l'œuvre dans cette petite scène? Ça dure une fraction de seconde. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour sortir ce genre d'ineptie? En prétextant que ce dessert est petit. Maintenant, dans la réalité, s'il me sort ça, je vais lui dire c'est, non, il n'est pas petit ce dessert. Voilà. Il n'est pas petit, il est gros. Alors commençons par le commencement et posons la question d'où sort cette petite phrase? Grande assiette, petit dessert. Elle vient de l'esprit de mon ami, de son cœur. Le corps dit, je veux un dessert. Le corps, il dit, je veux un dessert. Je veux du gras et du sucre et tous ces trucs qui ne sont pas bons pour moi. C'est ce que le corps dit. La volonté répond, puisqu'elle est ce qu'elle est, c'est bon pour moi, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Voilà. Et c'est là que ça place l'esprit dans une drôle de situation. Parce que l'esprit, il dit, je veux pouvoir me considérer comme une personne dotée de self-control et munie d'une forte volonté. Et là, je suis obligé de me montrer indulgent avec quelque chose qui n'est pas bon pour moi. De plus, j'ai pas envie que mon ami pense que je suis un glouton n'ayant strictement aucune hygiène de vie. Ça, c'est le problème de l'esprit à ce moment-là. Et à ce stade, l'esprit peut parfois dire à la volonté, hé, ma grande, ne fais pas ça, et au niveau sucre et gras, on a la dose, hein, déjà, c'est bon. T'as pas besoin de toutes ces calories et de tout ce gras. De plus, ton ami va avoir une mauvaise opinion de toi. Alors, c'est ce qui, j'aimerais bien vous rassurer, mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans ce cas-là, même quand votre esprit repasse les plats, si je peux le dire, à votre volonté, pour dire, surtout ne fais pas ça, la volonté ne reviendra pas en arrière, parce qu'elle a déjà dit oui aux injonctions du cœur. C'est trop tard. Vous allez bouffer le dessert. Même si votre ami est pasteur, il dit ne fais pas ça avec sa voix caverneuse, c'est trop tard. Alors que reste-t-il à faire à l'esprit puisque le corps a soumis la volonté? L'esprit doit faire quoi? Il faut qu'il rationalise ce qui se passe. Il va devoir se donner l'illusion qu'il y a un peu de raison à bouffer ce dessert géant, qui en fait ne l'est pas. L'esprit va devoir trouver un moyen de rationaliser la décision que la volonté a prise, afin qu'il puisse continuer à se sentir bien par rapport à la personne qu'il pense être. Ça vous semble familier comme fonctionnement? Je vais le dire plus simplement, parce que c'est peut-être un peu technique. L'esprit ne peut pas accepter d'être un gros cochon sans frein. Donc il va tenter de mettre un tant soit peu de raison dans tout ça, et il va dire, grande assiette, petit dessert. En fait, ce dessert, il est bien plus petit qu'on ne pense. Donc l'esprit va s'apaiser en considérant qu'il a mangé un petit dessert. Donc ma volonté était créée pour être soumise à Dieu dans tous les domaines. Mon esprit devrait être sous le contrôle de ma volonté, qui serait bonne dans ce cas-là. Et si c'était le cas dans la réalité, nous ne choisirions plus que des choses véritablement bonnes pour nous. Nous n'aurions que des pensées pleines de vérité et d'amour. Et nos désirs seraient toujours sains, avec T ou sans T à la fin. Et AS aussi. Mes habitudes s'aligneraient sur mes valeurs. Pour redire ce que Enzo Bianchi disait au départ. Ben, ce que je dis, ce serait ce qui est. Et mes appétits seraient gouvernés par ma pensée rationnelle. Ça, c'est le plan initial. Dans la réalité, on est plus proche de ce constat-ci. Le corps désire, la volonté capitule par manque de puissance, l'esprit rationalise et l'âme se désintègre. Elle n'unifie plus rien. Youpi! Vous êtes content d'être venu, hein? Je sais que vous êtes content. Hein? Et il y a des bonnes nouvelles, attendez. Hein? Et moi, je présente le truc. Hein? Voilà. On a des démonstrations, hypothèses, tests, enfin, qu'on essaie. Hein? Alors, et la joie dans tout ça, où elle est où? Ben, on se demande où elle est. Eh bien, la joie, c'est pour faire ça, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à conserver ça à l'esprit, justement. La joie, elle est comme tous les fruits de l'esprit que Dieu nous donne à disposition par la présence de son esprit en nous. La joie est un consolidateur de notre volonté. Et elle nous aide à être soumis à Dieu. C'est un consolidateur, c'est un boostant, ça soutient progressivement, elle et les autres fruits d'esprit vont soutenir notre volonté. Donc ces fruits viennent renforcer notre capacité à soumettre notre volonté à Dieu et à son esprit. Mais rappelez-vous, il faut s'entraîner. Ça c'est notre part, notre responsabilité. Et c'est pour ça que Paul écrit toujours dans sa lettre aux églises de Galatie, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de votre nature propre, vous ne boufferez pas un dessert géant. » quoi. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Alors Paul dit pourquoi est-ce qu'ils sont opposés? De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ben vous faites tout ce que votre ancienne nature demande, vous faites des desserts, vous faites n'importe quoi. Enfin, l'esprit de Dieu est là, il y a un combat, et c'est un combat, ça veut dire qu'on a une part à jouer dans ce combat. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et les fruits qu'il produit nous sont donnés pour contrecarrer les instincts de notre ancienne nature. C'est notre armée à nous, si vous préférez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut parler de combat intérieur. Et c'est pour cela qu'il nous arrive de n'être pas bien dans notre vie spirituelle, parce qu'on sait très bien qu'on est aux côtés de nos pompes. On sait très bien avec le temps ce que Dieu désire et ce à quoi il aspire pour notre vie et ce que nous vivons en réalité. Mais c'est pas en restant notre nez sur ce constat-là, en ne faisant rien à notre niveau à nous, qu'il y a quelque chose qui va changer. Tout est là, il nous a tout donné, il faut apprendre à désirer ce qu'il désire. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. J'ai dit tout à l'heure que nous devions aussi apprendre la joie de ceux qui la possèdent et passer du temps avec eux, si ça existe dans notre entourage. Mais nous savons bien que tout le monde ne la possède pas, cette joie. Et ce, pour différentes raisons. Personne en souffrance, que Christ nous demande d'aimer en priorité, toutes ces personnes considérées comme quantité négligeable parce qu'elles nous rappellent trop notre propre fragilité, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop les fréquenter, ben ces personnes possèdent rarement la joie. C'est bien pour ça qu'il faut être rempli, à titre personnel. Par contre, il y a aussi, ça peut arriver dans notre entourage, il y a aussi ce que j'appellerais les amers. Et on les retrouve aussi dans l'Église. Les amers se sont fermés avec le temps à toute idée de changement. Ils entretiennent, même si c'est inconscient souvent, ils entretiennent leur acidité intérieure et en aspergent régulièrement ceux qui osent encore les approcher. Ces personnes-là, il faut aussi les aimer, bien entendu. Il est hors de question de les abandonner, on n'abandonne personne. Mais il faut savoir quelque chose à leur sujet afin de pouvoir justement les aimer sans être détruits. Ils agissent comme des mangeurs de vie. Ce sont des trous noirs qui avalent toute lumière passant à proximité. Si on est trop exposé ou surexposé, notre joie est aspirée. Il ne faut pas être naïf. L'amertume, c'est le semeur qui ne sème pas de la semence, mais du désherbant. L'amertume est l'adversaire impitoyable de la joie et de la foi. Et des chrétiens sont habités par ça. C'est dramatique. Probablement parce qu'on ne les a pas aimés assez fort au départ. Être amer, c'est se concentrer sur soi et pas sur Dieu. C'est ressasser en permanence le bonheur des autres, tout en passant à côté du sien. C'est préférer la mort de son âme à la douleur, parfois, de la faire vivre. Être amer, c'est oublier que notre pire journée est un don qui vient d'en haut. Si on croit que Dieu est Dieu et qu'il est dans notre vie et que rien n'arrive ou ne nous arrive sans son autorisation, alors même les pires catastrophes ici, et elles sont réelles, il faut toujours garder à l'esprit, ça reste difficile, que c'est quand même une journée que Dieu nous donne à vivre, on n'en aura pas d'autre, cette journée-là. Il faudra qu'on y passe et qu'on la vive de manière à l'honorer lui et d'arrêter de nous prendre la tête pour nous. Encore une fois, pour beaucoup de chrétiens, Dieu est là pour les rendre heureux. Dans quel film ? Heureux, d'après les conceptions de la terre, dans quel film ? Groupe de jeunes, 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, moi, je veux te marier, avoir des enfants ! Ben, j'ai rien contre, quel projet spirituel. La famille et les enfants sont une conséquence de l'implication avec Dieu. Et ça vient souvent dans les familles chrétiennes aussi, je vous rassure. Mais si c'est la famille l'objectif premier, Dieu il va passer à la trappe très vite. Et là, on se dit, ah, les enfants ne tournent pas comme j'espérais qu'ils tournent, sans blague. Sans blague. Être amer, c'est oublier que notre pire journée est un don qui vient d'en haut. Alors ce monde, vous l'aurez remarqué, a développé ces dernières années une culture de la dépression. C'est devenu culturel. Donc il y a un impact sociologique, il n'y a pas que la psychologie là-dedans, il y a de la sociologie. Pourquoi est-ce qu'il y a des dépressions dans le monde occidental ? Que quasi une personne sur deux est dépressive, alors qu'il n'y en a pas en Amérique du Sud, il n'y en a pas en Afrique. Il faut se poser des questions quand même, non ? Alors les causes en sont multiples, et trop nombreuses pour que je puisse en parler dans le cadre d'un message. Par contre, il n'est pas inintéressant de relever que la dépression est autant présente dans l'Église qu'à l'extérieur de celle-ci, dans la vie de gens qui ont le Christ, que de gens qui ne l'ont pas. Et la question que je pose est donc celle-ci. Quelle différence faire dans le monde si tout en ne faisant pas partie du monde, nous souffrons des mêmes maux que le monde ? En quoi je suis un témoin ? Je suis aussi dépressif que mon voisin. Je ne dis pas cela pour stigmatiser les bouleversements intérieurs par lesquels nous pouvons tous passer. Je suis moi-même, de par mon évolution personnelle, j'ai moi-même tendance à déprimer. Donc voilà, ou alors je me jette des cailloux à moi-même. Mais comme je m'aime bien, j'évite de faire ça. Mais si je dis ça, c'est bien pour exprimer une évidence. Nous avons, tout simplement, négligé les armes, les fruits de l'esprit, nous permettant de relativiser nos blessures et de nous apprendre à vivre avec. Si on n'a pas appris, c'est parce que nous, on nous a pas appris. Mais quand on relit, je vous l'ai déjà dit, mais ça me frappe. Quand on lit les écrits des premiers responsables d'église, des premiers siècles, les 3-4 premiers siècles, ils ne parlent que de ça, en fait. Ils s'en foutent de comment élever mes enfants, comment être un bon papa, un bon même. Ça, non. Comment je peux être intime avec Dieu? Comment je peux vivre à partir de ce que ce monde a fait de moi, à partir de mes blessures? C'est de ça qu'ils parlent. Plus personne ne parle de ça aujourd'hui. Et le fondement de tout ça, mais ça vous l'aurez peut-être deviné, et j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, à d'autres moments, mais c'est, je sais bien que ça peut paraître une formule toute bête, hein, mais c'est une question de regard. Quand je dis il faut regarder à Dieu et pas à moi, c'est une question de regard, c'est une décision que je prends. La joie est aussi une question de regard. Je vais vous raconter une petite histoire. On raconte que lors d'un mariage, la future mariée était en train d'attendre avec son père dans l'antichambre de l'église. Le papa ne savait plus comment calmer sa fille qui était légèrement nerveuse. N'étonnant plus, il allait lui chercher des petits fours qu'elle avalait goulûment. Donc le truc à la volonté, elle bouffe les petits gâteaux. Puis le papa, toujours très prévenant, amène deux coupes de champagne à sa fille qu'elle boit les deux culs secs tellement qu'elle est stressée. Et enfin, les premières notes de la marche nuptiale retentirent dans l'église. L'une des demoiselles d'honneur ouvre les portes. Et tout le monde peut voir la mariée et sa robe. Qu'elles étaient belles, toutes les deux. Tout était pour le mieux, finalement, jusqu'au moment où, après avoir fait quelques pas dans l'église, petit four et champagne aidant, la mariée ouvrit la bouche et en laissa s'échapper un renvoi qu'on n'avait plus entendu depuis la période des dinosaures. Pas vous le mimer, vous avez compris. Hein. Devinez pour qui ça n'a rien changé à la joie de cette journée. Le papa de la mariée. Ça n'a rien changé. Parce qu'il avait l'habitude des renvois de sa fille. Peut-être, hein, mais... Non, je pense surtout parce que sa joie était complète et qu'elle restait intacte malgré le renvoi. Il faut décider d'être joyeux. Et Dieu soutient cet exercice, parce que c'en est un. Nous sommes programmés, de par la présence de Dieu en nous, nous sommes programmés pour la joie. Tout dans la Bible tend vers la joie du début à la fin. On va prendre deux textes très vite, dans le dernier livre de la Bible. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Encore un mariage. Mais comme tout sera parfait, il n'y aura plus de renvoi. Enfin, je suppose. Et un dernier pour la route, s'il tombe bien, parce que je termine par ça. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Le « il », c'est Dieu, bien sûr. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Enfin, les choses anciennes auront disparu. Tous les casseurs de joie, tous les briseurs de joie, tous les problèmes, tous les péchés, tous les comportements déviants, toutes les dépressions, tout ça aura disparu. Et ce matin-là, une aube se lèvera sur un jour de célébration. Rappelez qu'il faut célébrer la joie. Un jour de célébration qui n'aura jamais de fin, jamais. Un jour, la joie de Dieu sera complète parce que la nôtre le sera. Pour l'instant, sa joie n'est pas complète parce qu'il sait que la nôtre ne l'est pas. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu dit que la joie soit. Et la joie fut. Et le monde ne fut plus jamais pareil. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.